Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateur du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, c'est l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'immobilier sous toutes ses formes. Acheter pour louer reste un objectif pour beaucoup, mais entre réglementation, fiscalité et risques juridiques, les erreurs peuvent coûter cher. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Xavier Demezois, avocat spécialiste en droit immobilier.
Maître, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Alors, première question, avant même de chercher un bien, quels sont les réflexes juridiques essentiels pour un investisseur ?
Alors moi, j'ai souvent tendance à dire qu'un bon investissement immobilier, il commence pas par une visite, il commence par une vérification juridique et stratégique de l'achat. C'est-à-dire que le premier point qu'il faut vérifier, c'est à mon sens d'abord vérifier sa capacité financière dans le dossier. Combien on peut financer, quelles sont nos capacités d'emprunt, d'acquisition, mais également vérifier par exemple le point fiscal qui me semble essentiel. Les gens ne savent pas toujours avant même d'acheter sous quel régime ils vont investir, sous quelle forme de location. Je pense que encadrer au préalable la stratégie d'emprunt immobilier financière et fiscale, ça fait partie à mon avis des deux points importants à avoir en tête.
Alors lors d'un achat, quels points juridiques doivent être vérifiés en priorité sur le bien lui-même ?
Alors, à mon sens, il ne faut pas oublier d'abord que quand vous achetez un bien, ça, naturellement, vos auditeurs le savent, mais c'est toujours utile de le rappeler, on s'adjoint à un notaire. Le notaire, on ne le paye pas que pour faire des formalités d'actes. Il a aussi un devoir de conseil, une obligation même.
Et une responsabilité.
Et il faut évidemment mettre à profit ce conseil souvent pointu pour répondre aux questions. Alors, toujours quelques points juridiques quand même qui me paraissent utiles à avoir en tête. D'abord, le titre de propriété, c'est-à-dire tout ce qui est hypothèque, servitude, vérifier s'il y a eu des litiges, voir si déjà le bien qu'on achète, il est propre juridiquement. Ça, c'est un premier conseil. Un deuxième conseil que je peux donner, c'est, on en reparlera peut-être, c'est tout ce qui est règles d'urbanisme et règles de copropriété. J'entends par là, par exemple, pour les règles d'urbanisme, vérifier que le bien a bien eu toutes les autorisations de travaux, que les transformations qui ont pu avoir lieu sur la maison ou sur le bien ont bien fait l'objet de délivrances d'autorisation d'urbanisme, qui ont été purgées de tout recours. Et également, en matière de copropriété, vérifier là encore, dans le règlement de copropriété, que le bien qu'on achète est exempt de tout réflexe malheureux. Troisième point à voir, c'est les diagnostics. Diagnostic technique, donc c'est tout ce qui va être DPE, tout ce qui va être amiante, plomb, électricité. Voilà. Si on a ces trois volets en tête, déjà, on part sur de bonnes bases pour une acquisition.
Et tout ce qui est, par exemple, la fameuse véranda qui a été oubliée d'être déclarée, ou la cabane au fond du jardin qui n'est pas déclarée, ça, c'est le notaire qui le vérifie, ou comment ça se passe?
Parce que parfois,
je vois certains litiges.
Alors ça, c'est pareil, ça, c'est un réflexe. Moi, j'ai eu un cas comme ça au cabinet, une maison qui avait, un propriétaire qui avait agrandi sa maison, on va dire, substantiellement, essentiellement sans trop d'autorisation d'urbanisme. Et heureusement, l'acquéreur s'en est ému en comparant les plans, notamment de départ, avec ceux qu'il était en train d'acheter. Et le vendeur, dans les conditions suspensives, a dû aller régulariser en mairie les travaux qu'il avait effectués. Donc il en est de même pour les cabanes, etc. Si c'est soumis à permis, parce que parfois un simple cabanon, c'est juste une déclaration préalable, mais selon les superficies, on peut tomber sur le permis. Là encore, si vous voyez une construction sur le terrain, vérifiez, ou une rénovation, vérifiez toujours qui a eu les autorisations. Il faut toujours poser la question.
Mais si votre client n'avait pas eu ce réflexe de vérifier les plans, était la responsabilité? C'était lui qui l'apprenait ou...
Pour moi, ça, c'est le vendeur quand même qui est censé être responsable du bien qu'il vend. Et effectivement, si le bien acheté comporte des vis qui ont été cachés à l'acquéreur, effectivement, le vendeur, à mon sens, peut engager sa responsabilité. Voir comment le contrat est rédigé.
Et l'agent immobilier, en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'intermédiaire, il n'a pas de responsabilité?
Alors, l'agent immobilier, il a toujours une responsabilité, naturellement, là encore, dans ce qu'il vend, mais c'est toujours pareil. On ne peut pas spécialement demander à l'agent immobilier de faire une archéologie juridique des autorisations obtenues, etc. Il vend un bien qui lui a été donné, il n'est pas censé savoir que l'étage du dessus a fait l'objet de travaux qui auraient dû nécessiter une autorisation, etc. Donc ça, je pense que le notaire doit être vigilant sur ce qui est vendu, dans la consistance du bien. Il suffit de faire un simple comparatif entre le bien qui avait été acheté par le précédent propriétaire et ce qu'il est en train de vendre. Ça permet déjà de nous donner un indice des éventuels travaux qui ont eu lieu.
D'accord. Alors, en copropriété, vous avez commencé d'en parler. Mmh. Quels documents faut-il absolument lire avant de signer ?
Alors, la copropriété, il faut savoir que le règlement de copropriété, c'est le règlement de lien, c'est le mode d'emploi. Quand vous achetez un bien en copropriété, vous souscrivez à un règlement intérieur qui vous est opposable. C'est un document contractuel qui est très fort, qui est trop souvent sous-estimé. Mon cabinet a vraiment une expertise assez importante en droit de la copropriété et 70% de mes litiges relèvent de la copropriété. Pourquoi ? Parce que très souvent, malheureusement, les investisseurs négligent beaucoup trop souvent l'aspect copropriété et règlement de copropriété, notamment sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans les lots. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, la première chose quand vous achetez un bien en copropriété, c'est de vérifier les derniers PV d'AG, évidemment. Mmh. Prenons un cas d'école. Vous voulez faire de la courte durée dans les lieux. Vous apercevez qu'il y a 2 ans, l'AG a interdit la courte durée. Effectivement, si vous commencez de la courte durée, j'ai eu le cas d'un client comme ça. Il a acheté pour faire de la courte durée. Il a reçu un mail du syndic. Monsieur, il y a 2 ans, on a voté l'interdiction. Mmh. Qui n'a pas été contesté en justice, merci d'arrêter. Et je ne peux rien faire pour un client comme ça, c'est gravé dans le marbre si vous voulez. Donc ça c'est un point de vigilance. De même, j'ai des clients parfois qui achètent des biens pour faire de la location meublée, or parfois on a des clauses dans les règlements de copropriété qui interdisent noir sur blanc la location meublée. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir.
Et de plus en plus,
mais on peut même aller encore plus loin. J'ai récemment eu un client, il y avait une salle de gym qui devait s'installer dans l'immeuble. On a trouvé une clause dans le règlement de copropriété qui interdisait précisément les salles de gym. Donc on a fait fermer cette salle de gym. Et je peux vous dire que la salle de gym et son propriétaire n'ont pas été assez regardants sur cette clause élémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clause d'occupation, la clause de destination de l'immeuble. S'il y a un point à regarder, c'est celui-là. Si vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de la comprendre, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseil juridique. Moi, je fais très souvent des consultations sur ces points-là. C'est quasiment décisif pour une acquisition de border ce point.
Oui, donc rappel aux auditeurs, s'il y a un document à regarder, c'est bien le règlement de copropriété, surtout à tout ce qui est destination. Mmh. Alors, on en a parlé aussi un petit peu au début, tout ce qui est urbanisme, servitude, usage du bien. Quels blocages juridiques sont le plus souvent découverts trop tard ?
Bah, si vous voulez, là encore, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que il y a beaucoup de projets qui tombent à l'eau parce que, par exemple, des gens achetaient un bien en vue de faire une extension, une piscine, que sais-je. Là encore, il y a le PLU qui vient réglementer ce qu'on peut faire, pas faire, construire, et les gens ignorent ou n'ont pas su s'informer de ce qu'ils pouvaient faire ou pas au stade d'avant l'acquisition. Ils découvrent en fait quand ils sont propriétaires. Ils sont surpris de voir que leur permis leur est refusé de réhabilitation, mais s'ils s'étaient aventurés à examiner le PLU, ils se seraient aperçus qu'ils n'avaient pas le droit de faire cette extension. Là encore, un conseil que je donne à vos auditeurs, c'est, sans être un expert des PLU, puisque on ne peut pas demander aux gens d'être des juristes ou des urbanistes, n'hésitez pas à vous adjoindre un architecte, même dès le stade de l'acquisition. L'architecte, lui, pourra vous renseigner auprès de l'urbanisme où il aura une expertise locale pour vous dire on peut le faire, on ne peut pas le faire. Et si jamais vos travaux sont conditionnés et fondamentaux dans votre cadre d'acquisition, n'hésitez pas à en faire une condition suspensive. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut jamais négliger. Quand vous avez le moindre doute sur quelque chose, il faut toujours mettre de la condition suspensive. Moi, j'ai des gens parfois qui veulent faire de la courte durée, mais ça va dépendre d'avoir une autorisation locale du maire, condition suspensive. Sinon, après, vous vous retrouvez avec un bien dont vous ne savez que faire. Voilà, donc ça c'est point, effectivement. Alors après, sur l'urbanisme aussi, des choses à vérifier, donc tout ce qui est droit de passage, les servitudes de vue, voilà, toutes ces petites contraintes qui sont un petit peu invisibles, là encore il faut les border en amont.
Très bien. Alors, une fois propriétaire, supposons que tout soit bien passé jusque là, quel est le premier point à sécuriser avant de louer ?
Alors, je pense que la première chose à faire quand vous achetez un bien, c'est de s'assurer de la conformité juridique du logement. En gros, voir si vous avez un bien qui est décent, qui est aux normes minimales d'électricité, de DPE, etc. Je pense que voir si le bien est en sécurité, si au niveau des performances, des DPE, des performances énergétiques, il est propre. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous ne pouvez plus louer certains biens qui sont en DPE négatif. Donc, je pense que le premier réflexe pour un investisseur qui veut notamment louer son bien, c'est de vérifier qu'il peut louer ce bien parce qu'il va pas avoir un locataire dans 3 mois qui va lui écrire un courrier recommandé. Monsieur, vous m'avez appliqué un loyer qui n'est pas applicable compte tenu du DPE négatif. Monsieur, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Le deuxième conseil que je donnerais, qui est fondamental, une fois que vous avez vu que votre bien était propre sur un plan technique, c'est le contrat actuel, c'est-à-dire le contrat de location. Veillez à signer un contrat béton. Aujourd'hui, il y a des sites qui produisent des contrats de location, même payants, qui sont très bien faits, avec toutes les annexes obligatoires. Aujourd'hui, louer un bien, c'est quasiment faire un acte de vente notarié, c'est-à-dire que vous avez tout un tas d'annexes à joindre, les DPE, les règlements de copropriété, les diagnostics. Il faut surtout pas oublier de les annexer. Hein, si vous louez un meublé, il faut mettre la liste des meubles. Combien de dossiers j'ai eu au cabinet de contrats qui ont été requalifiés en longue durée parce que il manquait la liste des meubles, parce qu'il manquait un DPE, parce qu'il manquait un règlement de copro, et on nous conteste une hausse de loyer parce qu'il n'y avait pas le DPE qui était annexé. Donc, réflexe à vos auditeurs, là encore, ne négligez surtout pas la partie bail, il faut qu'elle soit extrêmement bien montée.
D'accord. Au niveau des impayés, des dégradations, des litiges, comment un propriétaire peut-il se protéger, je veux dire, juridiquement ?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas toujours juridique, c'est surtout du bon sens. On parle en droit, il y a une notion qui s'appelle la notion de bon père de famille. C'est-à-dire que quand vous louez, il faut pas louer aveuglément. Premier dossier qui vous tombe dessus, parce que vous voyez une feuille de salaire importante, vous dites ça, c'est le locataire parfait. Non. Une location, elle peut s'installer pour longtemps, pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, que sais-je. Il faut sélectionner. C'est comme presque, j'ai presque envie de dire, un entretien d'embauche. On sélectionne pas n'importe qui. Et surtout, on le sélectionne avec sérieux. Donc, moi, par exemple, mon cabinet gère énormément d'impayés locatifs, tous mes clients pour point commun de me dire « Ah bah maître, il présentait très bien mon locataire au début, il payait. » Mais très bien monsieur, mais est-ce que vous avez bon réflexe, que vous avez un garant dans le dossier déjà ? Ah bah non, j'ai pas de garant. Ah, dommage. Donc là, on a que votre locataire et son manque de solvabilité, ça va être embêtant pour le dossier. Donc premier conseil que je donne, il paraît élémentaire, toujours prendre un garant. Toujours prendre un garant. Vous sécurisez doublement votre dossier. Si vous voulez vraiment le sécuriser encore avec plus de précautions, vous prenez une assurance impayée. Moi, je la recommande aujourd'hui à tous mes clients. Tous mes clients prennent une assurance impayée. Alors certes, ça va impacter votre bien en termes de rendement, c'est évident.
On parle entre 10 et 15%.
C'est ça, on parle entre 10 et 15%, mais j'ai envie de vous dire, la tranquillité n'a pas de prix. Parce que pour vos auditeurs ou pour mon cabinet qui connaissent énormément d'impayés locatifs, c'est un cauchemar qui démarre. Et vu les délais de lenteur de la justice aujourd'hui, malheureusement, qui sont saturés de demandes, vous avez une situation d'impayé au tribunal qui peut durer 2 ans. Donc quand vous êtes un investisseur et que vous devez rembourser un crédit et que vous avez un procès qui va durer 2 ans pour expulser un locataire dont à la fin, in fine, vous n'êtes même pas sûr de récupérer votre argent puisque la personne sera peut-être insolvable, c'est une très mauvaise opération financière. Et là, vous êtes content d'avoir pris cette fameuse assurance impayée qui s'occupe de tout, de l'avocat, des frais, de tout, et vous sécurisez votre investissement. Si vous voulez pas prendre cette assurance pour des raisons financières, prenez un minimum un garant. Et vérifiez surtout, il y a beaucoup de faux qui circulent malheureusement dans les dossiers locatifs, la presse s'en fait l'écho énormément, veillez toujours à sécuriser les documents qu'on vous donne. Il y a parfois des feuilles de salaire qui c'est des faux grossiers, il y a des éléments à demander aux locataires pour s'assurer de la pérennité, contrat de travail, des avis d'imposition, des choses qui montrent vraiment une sécurité financière certaine.
Alors, la presse se fait aussi l'écho d'un sujet très sensible, c'est le squat, encore pire que l'impayé. Ce risque est-il réel pour les investisseurs aujourd'hui et dans quel cas est-on le plus exposé ?
Alors moi, je fais partie des gens qui sont un peu plus optimistes sur la question du squat. J'ai beaucoup de presse qui me contacte parce qu'ils me demandent à mon cabinet s'il y a des squatteurs dans mes dossiers. Je leur dis, je suis désolé, mais j'en ai pas et je vais faire mieux, je vais vous inviter à venir à des audiences classiques au tribunal de Paris pour impayés. Vous verrez, il y aura une centaine de dossiers ce jour-là, vous n'aurez pas un dossier de squat. Parce que 99,5% des dossiers sont des dossiers classiques d'impayés locatifs pour des locataires en bonne et due forme. Les cas de squat sont tellement rares d'ailleurs que la presse en parle, pour vous dire à quel point c'est rare. Mais c'est toujours significatif, c'est toujours parlant, un squatteur. On a toujours l'image du pauvre propriétaire qui se fait squatter son logement. J'ai envie de vous dire que les cas sont rares. Mais effectivement, ils sont pas inexistants, donc il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il y a des petits moyens, si vous voulez, il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres squats, c'est les locaux vacants. D'accord ? Quand vous avez des locaux vacants, vous les exposez davantage à un squat qu'à des locaux occupés. Alors des volets qui sont fermés depuis longtemps, le courrier qui déborde dans la rue, ça peut être des invitations au squat. Donc là aussi, il faut prendre des précautions. Il faut aussi sécuriser sa porte, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, un squatteur aura plus de difficultés à squatter un logement qui sera difficile d'accès qu'une simple porte où vous donnez un coup de coude et elle s'ouvre. Donc sécurisez vos logements, mettez même des alarmes s'il faut. Il faut aussi penser à changer vos serrures. Très souvent, les bailleurs, quand ils changent de locataire, ils pensent pas à changer les serrures. Vous pouvez avoir un ancien locataire mal attentionné, votre clé circule à des mauvaises personnes et un jour la mauvaise personne a la bonne clé pour entrer chez vous. Voilà, donc aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais la loi s'est durcie en faveur des propriétaires pour les protéger du squat. Donc si un jour ça arrive, je crois que c'est peut-être une des questions que vous aurez à me poser par la suite, mais on peut évoquer la réponse juridique à apporter en cas de squat.
Eh bien,
allons-y, effectivement. Donc, quelle réponse apporter d'un point de vue juridique en cas de squat?
Alors, si jamais vous êtes victime d'un squat, ce qu'il faut tout de suite faire, c'est naturellement réagir. Réagir par une main courante, c'est la première chose à faire. Vous allez au commissariat ou à la gendarmerie, vous faites une main courante. Ensuite, le mieux, évidemment, c'est de s'adjoindre un avocat, puisque celui-ci va tout de suite s'adresser au préfet, très rapidement, et le préfet aura un délai extrêmement court, je crois que c'est 48 heures, pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux, et à défaut, il y a toute une procédure d'expulsion qui peut rapidement se mettre en place. Voilà, donc aujourd'hui, il faut avoir ce réflexe. La loi, aujourd'hui, on peut dire, s'est favorisée pour protéger les propriétaires face à ces cas de squat, justement, où malheureusement, il n'y avait pas de réponse juridique adaptée. Par contre, attention, il y a toujours des cas, malheureusement, où le préfet ne pourra rien faire. Je vous donne un exemple très concret. C'est le cas, par exemple, d'un squatteur, entre guillemets, qui entre et qui dit à la police ou aux gendarmes, je suis désolé, mais moi j'ai signé un contrat de location avec un propriétaire qui n'en réalité pas le vrai propriétaire, qui était un faux propriétaire, un faux bailleur, mais il aura un document à donner où il montrera sa bonne foi. Et là, le préfet peut dire, ah, je suis peut-être pas dans un cas de squat, il y a un contrat de bail, on va laisser le juge trancher. Sous-entendu, on va attendre 2 ans. Ça, c'est des cas, malheureusement, où on n'a pas toujours la maîtrise.
D'accord. Mais finalement, en vous écoutant, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose plutôt pour tous ces dossiers qui dure 2 ans d'impayés plutôt que pour le squat, parce que finalement le squat, oui, ça reste un épiphénomène, alors que à vous entendre, j'ai l'impression que les impayés, c'est un phénomène qui est beaucoup 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 plus ample.
Alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des tribunaux en France qui sont pas du tout encombrés sur les impayés locatifs. Je pense notamment aux tribunaux en région. Souvent, malheureusement, il est vrai que Paris et la région parisienne connaissent un grand nombre de saturations de tribunaux, notamment parce qu'on a des grosses concentrations, par exemple, d'habitats à loyer modéré, qui sont des zones plus propices, par exemple, à des situations d'impayés avec beaucoup de volume de logements. Et malheureusement, les tribunaux ne peuvent pas, intégrer tout le flux des dossiers qu'il y a. Et effectivement, il faudrait que la justice ait plus de moyens, plus de magistrats, plus de greffiers, pour qu'on ait plus d'audience. Moi, je vous donne un exemple. Là, j'ai eu le cas, par exemple, récemment, je crois que c'était au tribunal de Colombes. Je voulais prendre une date d'audience pour un arriéré locatif. La prochaine date d'audience était en septembre 2027. Juste la première date d'audience. C'est-à-dire que ça sera pas jugé en septembre 2027. Le locataire va sûrement demander un renvoi avec son avocat. Ça sera jugé en 2028. Donc ça veut dire que là, on est en tout début 2026, on aurait une décision dans 2 ans. Avec une exécution. Alors, pour peu qu'on ait une décision qui tombe pendant la trêve hivernale, il faudra attendre la sortie de trêve hivernale. Donc, on pourrait être en 2029. Donc, effectivement, il y a des tribunaux, malheureusement, aujourd'hui, qui sont particulièrement encombrés. Mais ça, c'est plutôt des moyens politiques que juridiques.
Vous accompagnez au quotidien de nombreux investisseurs et finalement, quelles sont les erreurs qui reviennent le plus souvent dans les dossiers que vous traitez ?
Alors moi, les erreurs qui reviennent le plus souvent, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est parce que j'ai mon cabinet a une expertise assez importante en droit des locations meublées touristiques de type Airbnb. Donc c'est un petit peu le cœur de mon expertise aujourd'hui. C'est une expertise qui se prête énormément aux investisseurs. La première erreur que je vois la plus courante, c'est vraiment sur le règlement de copropriété. D'accord. C'est le cas le plus classique.
Le premier conseil que vous nous avez donné.
Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui vont acheter un bien. Je vous donne un exemple. Des gens vont, par exemple, vouloir... ils achètent un atelier dans Paris, un ancien atelier. Ils veulent faire du Airbnb dedans. Ils ont les autorisations de la ville de Paris, tout va bien. Mais un jour, ils reçoivent un courrier d'avocat de la copropriété qui disent « Monsieur, vous faites du Airbnb dans un atelier. » On ne comprend pas dans la copropriété. Donc, en fait, on va vous demander d'arrêter. Donc vous prenez un investisseur qui a mis 500 000 euros sur la table, qui a fait des travaux, il est embêté. Il l'aurait été un petit peu moins s'il était venu me voir avant. Je dis pas qu'il n'a pas le droit de le faire spécialement dans son atelier, mais disons que son sujet peut se débattre devant un tribunal et même de façon négative pour lui. Voilà, parce que si on fait une lecture stricte du règlement de copropriété, il peut être en difficulté. Ça, c'est mon premier conseil. La deuxième chose que je vois le plus souvent, c'est des erreurs de casting, entre guillemets, dans les locataires. C'est-à-dire des gens qui ont pris des gens, ils n'ont pas été assez regardants, ils se sont pas aperçus qu'ils louaient à des personnes qui étaient finalement rapidement insolvables. Et un conseil que je donne à vos investisseurs qui est très important, n'attendez pas une hémorragie trop importante d'impayés pour agir en justice. Mmh. Très souvent, les gens, quand ils m'appellent, ils sont déjà à 10 000 euros, 15 000 euros. C'est beaucoup trop tard. Dès que vous avez un ou deux mois de personnes qui ne payent pas, même des gens qui payent en retard, il faut tout de suite faire une mise en demeure, qu'elle soit par un avocat ou un commandement de payer par huissier. Il faut tout de suite réagir. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes que les tribunaux étaient engorgés. Donc, si vous voyez que vous avez un locataire qui commence à ne pas payer, il faut tout de suite anticiper, presque avec un avocat, de réserver une date d'audience, même dans 8 ou 9 mois, de sorte à ce que si les impayés perdurent, vous avez votre date au tribunal qui est déjà réservée et qui n'est pas engageante. Ça, c'est un réflexe que je donne. Donc, si vous avez un impayé, tout de suite, vous appelez un commissaire de justice, ce qu'on appelait avant des huissiers, pour délivrer un commandement de payer. C'est la règle élémentaire.
Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Julien de Toulouse. J'ai acheté un appartement pour le louer, mais la copropriété envisage de restreindre certains usages. Puis-je m'y opposer ?
Alors là, par exemple, si on va prendre le cas d'école qui est Airbnb, hein, c'est le cas, à mon avis, c'est certainement la question de Julien de Toulouse, hein, c'est le cas le plus fréquent, et on est vraiment au cœur de l'actualité. Je vais essayer d'être assez bref et pédagogique, mais ça peut intéresser vos auditeurs. Le 21 novembre 2024, il y a eu ce qu'on appelle la loi Lemeur. Cette loi permet désormais aux syndicats de copropriétaires de voter l'interdiction de la courte durée, à une majorité relativement simple. Là où avant, il fallait l'unanimité des voix. Donc aujourd'hui, vous avez des centaines, voire des milliers de copropriétés en France qui vote cette fameuse interdiction. Il faut dire à Julien qu'il y a des cas où l'unanimité reste la majorité qu'il faut adopter. Beaucoup de syndics ne réfléchissent pas beaucoup en rédigeant les convocations d'Assemblée Générale, mais il y a encore certains règlements de copropriété où il faut toujours l'unanimité des voix. C'est notamment le cas des règlements de copropriété où il n'y a pas d'interdiction des activités commerciales dans les logements. Ce qu'on appelle des règlements de copropriété assez ouverts. Dans ces cas-là, il faut que Julien tout de suite avertisse son syndic. Non, attention, il faut l'unanimité des voix. Et si malheureusement le vote est déjà intervenu, il faut qu'il conteste en justice. Là encore, c'est du cas par cas. Chaque règlement de copropriété est différent. La dernière information que je vais vous donner est très importante. Cette fameuse loi Lemeur qui a changé le mode de vote, mon cabinet a saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler cette loi. Et à l'heure où je vous parle, le dossier sur le bureau du Conseil constitutionnel, et on aura le délibéré du Conseil constitutionnel entre le 20 et le 30 mars 2026. Peut-être qu'à cette date-là, on saura, d'ailleurs, peut-être quand votre émission sera diffusée, on aura peut-être déjà l'information, si oui ou non, cette loi, effectivement, a validé le processus de la loi Lemeur, ou au contraire, l'a censurée.